Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Questions politiques à l'heure européenne et une émission aujourd'hui alors que nous sommes à un tournant de la campagne. 3 semaines tout juste avant les élections, le dépôt des candidatures est maintenant clos. 33 listes enregistrées, vous le savez, c'est un record et 2 invités aujourd'hui. Nathalie Loiseau, tête de liste La République en marche et des alliés de la majorité présidentielle, et Raphaël Glucksmann qui mène la liste Place Publique, Parti Socialiste. Intervenez sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Quelles années 30 voulons-nous ? C'est comme ça qu'elle a formulé l'enjeu du scrutin du 26 mai prochain, les années 1930 ou les années 2030 ? Le nationalisme ou le progressisme ? La République en marche ou le Rassemblement national ? C'est ce qui détermine sa stratégie. Elle sera en meeting demain à Caen en présence du Premier ministre. Elle mène la liste Renaissance. Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour Ali Badou.
Pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, Nathalie Loiseau. Question rituelle, c'est la première question que nous posons à tous nos invités pendant la campagne. Que diriez-vous à un jeune Français, une jeune Française qui va voter pour la première fois pour lui présenter en quelques phrases et de manière assez simple votre idée de l'Europe ?
Mon idée de l'Europe, c'est une Europe de progrès. C'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup, le progrès aujourd'hui. L'Europe s'occupe de l'avenir, d'une autre, celui de nos enfants. Donc un progrès écologique, un progrès technologique au service des hommes, un progrès qui fait de l'Europe ce qu'elle a été au moment de la Renaissance, c'est-à-dire le continent qui était en avance sur les autres et le continent de l'humanisme.
Voilà, c'est clair. Karine Bécard.
Oui, c'est extrêmement clair. Alors, pour préciser, un émissaire allemand est passé la semaine dernière à Paris, je crois, et s'inquiète malgré tout de la faiblesse de la liste de La République En Marche. Que des nouveaux, il a dit. Aucune capacité d'influence. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ?
Écoutez, cet émissaire allemand, il doit être discret parce que personne ne l'a vu, personne ne le connaît.
Donc, il est allé à l'Élysée rencontrer le conseiller.
Oui, j'ai lu ça dans la presse ce matin. Personne ne le connaît, personne ne l'a vu.
Et malgré tout, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
Par définition, nous ne sommes pas au Parlement européen. La liste que je conduis est une liste nouvelle. Pas de recasé de la politique. Pas de recyclés, pas de gens qui s'étaient mis au chaud à Strasbourg et dont on n'a pas vu le résultat.
Donc pas de poids lourd, pas d'influence. Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est grave ?
Écoutez, ça, il n'est pas impossible que les vieux partis traditionnels qui sont au Parlement européen s'inquiètent de voir arriver des gens qui ont de l'énergie, envie de faire des choses, envie d'être vraiment au Parlement européen pour bouger les lignes, de constituer un groupe central sans lequel une majorité ne sera plus possible.
On va y venir. Françoise Fressoz.
Pourquoi cette dynamique que vous espérez ne se produit pas ? Qu'est-ce qui marche pas dans la campagne aujourd'hui ?
Écoutez, aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûre que les Français aient la tête à la campagne des européennes. Il y a eu le grand débat. Il y a eu des samedis les uns après les autres où les Français se sont inquiétés. Et je me réjouis que samedi dernier ait été un samedi sans violence, j'allais dire enfin. Il y a eu des événements comme l'incendie de Notre-Dame pendant lequel, par exemple, nous avons suspendu notre campagne. Et puis, il est temps, plus que temps, qu'on parle du fond, qu'on parle d'Europe, à un moment où, à l'évidence, si on a beaucoup polémiqué sur des petites choses, des petits détails, et très peu ont eu envie de dire ce qu'on propose à nos compatriotes, quel avenir pour eux, quel avenir pour leurs enfants.
Il faut écouter, regarder Questions politiques, ça fait maintenant plusieurs semaines, Nathalie Loiseau, que nous consacrer l'émission à ça.
Quand Emmanuel Macron dit que si vous n'arrivez pas en tête, eh bien la capacité de réforme sera largement entamée, est-ce qu'il vous met un coup de pression inutile ou est-ce qu'il a raison ? Première question. Deuxième question, est-ce que vous souhaitez qu'il se mette dans la campagne à fond ou est-ce que ça peut être contre-performant ?
Alors, sur la première question, j'ai toujours dit que je souhaitais battre le Rassemblement national. Je le souhaite pour les Français. Je le souhaite pas pour mon orgueil personnel. Je pense que ça fait 5 ans. Je pense que ça fait 5 ans que le Rassemblement national, ou le Front National à l'époque, était le premier parti de France au Parlement européen. C'est 5 ans de perdu. 5 ans qu'on a perdu de l'influence. 5 ans où ils n'ont rien apporté.
Mais ça change absolument rien. sur le fond au Parlement
européen.
Au milieu
européen, des 750 eurodéputés.
Savoir qui est arrivé premier de La République En Marche ou du Rassemblement National.
Bien sûr que ça change, parce que nous avons l'intention de venir avec des députés qui vont travailler, qui vont proposer, qui vont construire des majorités, qui vont porter des projets. Pendant 5 ans, il y a eu 24 personnes, 19 mises en examen, radioactives pour tous les autres, et qui n'ont rien apporté, qui ont été contre tout le temps. Contre la lutte contre la désindustrialisation, contre la lutte contre le terrorisme, contre le renforcement des frontières, contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Écoutez, qu'est-ce que la France est devenue pendant ces 5 ans-là ? Rien.
La présence d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut être le sauveur dans une campagne qui patine ?
Écoutez, d'abord, il est chef d'État, il a fait sa campagne, et c'est pour ça que je l'ai rejoint à la présidentielle, en étant un Européen convaincu et exigeant. Et depuis 2 ans, il a un bilan, nous avons un bilan, j'ai eu le bonheur et l'honneur de servir son gouvernement sur les affaires européennes. Il va continuer. Il était avec le président Mattarella, le président italien, cette semaine,
à Amboise.
C'est son rôle de chef d'État, de porter
être dans une
européenne.
Réunion publique à votre côté.
Écoutez, c'est à lui de le voir.
Vous le souhaitez.
Il est à notre côté, à nos côtés tous les jours. On porte un projet qui s'inspire évidemment du discours de la Sorbonne, qui s'inspire de sa lettre aux Européens. Donc,
est-ce que vous le souhaitez ?
Nous sommes
la liste
de la majorité
polarisée
et d'une
dans
majorité.
Un référendum anti-Macron. Si on le voit trop, où est la bonne cote ? Le voir un peu pour qu'il vous soutienne ou le voir trop pour que finalement il fasse fuir des électeurs.
Écoutez, ce qui est évident, c'est que beaucoup de nos opposants ont dit on veut mettre une claque à Macron, on veut un référendum anti-Macron. Ça, je le leur laisse. Nous, ce que nous proposons, c'est un projet pour les Français, pour que la France retrouve sa voix.
On va parler de votre projet, mais vous-même, vous formulez l'alternative de manière très simple. Ces élections, c'est moi ou le chaos, pour le dire rapidement.
Alors, c'est pas moi qui formule l'alternative. Je regarde le résultat, je vois d'où on part. Je vois qu'on part d'un Front National qui était très fort il y a 5 ans, qui est un petit peu moins fort aujourd'hui, mais qui est très présent. Ça m'inquiète. Ça n'est pas gagné. Je ne me repose pas sur mes lauriers. Ça n'est pas moi qui le dis. Je regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui.
Vous n'avez pas le sentiment d'avoir renforcé cette stratégie-là, justement, en choisissant votre adversaire ?
Écoutez, je vais être très honnête. J'aurais préféré avoir un adversaire principal différent de celui-là. Simplement, c'est celui-là que je combats. Ça tombe bien, c'est mon engagement de toujours. Ça tombe bien, battre l'extrême droite, c'est aussi pour ça que je suis entrée en politique.
Justement, on va parler de vous, Nathalie Loiseau, avant de parler de votre projet, votre portrait, signé Karine Becker.
Nathalie Loiseau, avant d'être nommée tête de liste pour le camp macroniste, beaucoup l'ont oublié parce que l'actualité va trop vite, mais il avait d'abord été question de Daniel Cohn-Bendit, cette figure emblématique. Et puis le ministre Jean-Yves Le Drian avait été évoqué relativement rapidement. Sans oublier Alain Juppé, qui lui aussi a tout de suite décliné. C'est donc après toutes ces déconvenues qu'Emmanuel Macron a misé sur vous, une femme assez peu connue. Une diplomate, Nathalie Loiseau, passée par Sciences Po et par les langues eaux. Premier poste en Asie, à Jakarta, en Indonésie. Dakar et Rabat ensuite, c'est-à-dire l'Afrique, sans oublier Washington. Vous y êtes envoyé à un moment clé quand Jacques Chirac dit non aux Américains à la guerre en Irak. Et pendant 26 ans, Nathalie Loiseau, vous avez su manœuvrer et faire avancer les dossiers. Même efficacité une fois devenue ministre des Affaires européennes. Seulement, vous n'aviez jusqu'ici encore jamais fait de politique. Ce qui explique peut-être votre maladresse quand vous avez affiché publiquement vos ambitions pour devenir tête de liste.
Bravo, parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Mais cette fois-ci, je ne me défilerai pas, Madame Le Pen.
Alors c'était il y a presque 2 mois dans l'émission politique, ce 14 mars dernier, les téléspectateurs se sont sentis gênés face à vous, la patronne du RN s'est moquée et rien de tout cela surtout n'avait l'air totalement improvisé. Depuis, Nathalie Loiseau, la zone de turbulence ne s'est en réalité plus jamais éloignée. Il y a eu bien sûr cette vieille histoire de candidature sur une liste d'extrême droite que vous avez voulu cacher avant d'être obligée finalement de l'assumer. Et puis il y a eu aussi les mots utilisés pour parler de l'ENA. Soulagée, avez-vous dit, d'apprendre qu'elle sera bientôt supprimée, cette école qu'il y a encore 2 ans vous étiez en train de diriger. Cela dit, il faut observer que devant toutes ces difficultés, vous, Nathalie Loiseau, n'avez absolument pas vacillé. C'est vrai que vous aviez déjà montré que vous saviez riposter contre Matteo Salvini et Marine Le Pen, vos cibles préférées. Non, le problème, c'est qu'avez-vous fait de votre sincérité ? Parce qu'en politique, faire coïncider ce que l'on dit, ce que l'on dit et ce que l'on est, c'est un atout essentiel pour espérer l'emporter.
Réaction, Nathalie Loiseau.
Réaction, oui. Je ne suis pas une vieille politique. Je je suis pas un vieux briscard. Je constate que, bien sûr, la campagne est violente. J'ai eu mon baptême du feu. Le tir a été nourri. Ça ne me fait pas vaciller. Je vous le confirme. J'ai l'habitude d'être combative. J'ai l'habitude d'être déterminée. Et cette combativité, cette détermination, je vais les mettre au service des Français, comme je l'ai toujours fait.
Et votre sincérité?
Écoutez, qu'est-ce qui est sincère entre mon ras-le-bol d'entendre Marine Le Pen dérouler des contre-vérités et son gros rire très travaillé, très ancien, très politique? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les Français ont du mal à s'intéresser à la politique et il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'en faire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette violence, parce qu'il y a ces polémiques. Je ne suis pas sûre que ça aide à la fois les Français à s'intéresser à ce qui se passe. Et on a l'impression que si on est quelqu'un de normal, on n'est pas 100% le bienvenu en politique. Moi, j'ai envie de rester normal.
Normal? C'est vrai qu'il n'y a qu'un exemple en tête qui nous vienne à l'esprit de personnalité politique qui revendique le mot de normal. Mais Nathalie Loiseau, on va maintenant parler de votre programme ou de votre programme à venir. Comment se fait-il qu'à ce stade de la campagne, vous n'ayez toujours pas dévoilé vos propositions pour les 5 ans que vous espérez mener comme députée européenne?
Vous plaisantez?
Transition écologique. Je ne plaisante absolument pas.
Oh, c'est dommage. On dirait transition écologique. Très tôt, nous avons dit ce que nous avons comme proposition, qu'il s'agisse d'une banque européenne du climat.
Il y a un programme.
Non seulement il y a un programme, il est prêt depuis longtemps.
Mais où est-il?
Des propositions, un programme. Des propositions sur la transition écologique, nous les avons faites depuis le début. Sur l'Europe sociale, nous les avons faites depuis le début. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, une tribune est parue sur une politique européenne féministe. Des propositions, il y en a tous les jours et nous en parlons dans toutes nos réunions publiques. Le programme en tant que tel, je me réjouis qu'il y ait cette impatience. Il sera publié le 9 mai. Pour la seule liste pro-européenne, c'est une assez jolie date.
Pro-européenne? Mais pour convaincre les électeurs, il faut quand même bien avoir un programme écrit, qu'on puisse consulter, discuter,
Le programme, c'est Macron, en fait.
Je suis ravie de votre impatience, donc vous le lirez avec attention. Je suis
aucune
sûre
impatience.
Que vous en parlerez.
Mais pourquoi avoir autant tardé?
Écoutez, nous en parlions il y a quelques minutes. Est-ce que les Français étaient dans la campagne des européennes? Est-ce que c'était ça le sujet? Est-ce que vous-même, c'est ce dont vous parliez jour après jour?
Oui. Allons-y maintenant.
Il ne suffit pas
aujourd'hui de dire voilà ce qu'on veut faire. Il faut prouver aussi qu'on va y arriver.
Ouais.
Et par exemple, sur l'écologie, vous dites un plan d'investissement de 1000 milliards d'ici 2024.
Vous voyez, il y a un programme.
Il y a une fuite dans le journal du dimanche, Nathalie Loiseau. C'est très différent.
Ah, c'est tout à fait inexact.
En l'occurrence,
il y a une tribune de Pascal Canfin et de moi-même.
Je l'ai lu, une déclaration de principe. Les mesures chiffrées, on les voit dans le journal du dimanche aujourd'hui.
Alors dites-nous comment concrètement vous arrivez à trouver 1000 milliards d'euros pour la transition écologique.
D'une part, le budget européen doit consacrer au moins 40% de ses dépenses à la transition écologique. Qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'industrie, qu'il s'agisse de la capacité, par exemple, à financer, à aider la recherche sur les énergies propres. Mais on ne fera pas tout avec de l'argent public, parce que si on fait tout avec de l'argent public, comme certains le proposent, on laissera à nos enfants la dette écologique et la dette financière en même temps. 1000 milliards, c'est un chiffre qui a été évalué par l'Union européenne. Ça signifie qu'il faut que l'épargne des Européens s'oriente enfin vers la transition écologique. Aujourd'hui, c'est 1% de l'épargne européenne qui finance la transition écologique.
Comment vous faites concrètement ?
Avec une banque européenne du climat qui soutient les prêts, avec des prêts garantis, avec des prêts à taux préférentiels, pour qu'enfin les banques soient derrière les énergies renouvelables, derrière l'isolation des logements, derrière les transports propres, derrière tout ce qui fait qu'on sera au rendez-vous de la transition écologique, qui est la première urgence en Europe.
Pour avoir une idée de ces montants, le budget total de l'Union européenne, Nathalie Loiseau.
Le budget total de l'Union européenne, c'est 1% de ce que consacre chaque pays européen.
160 milliards d'euros. Et vous proposez un plan d'investissement de 1000 milliards.
Mais justement, le budget, ça n'est pas de l'argent public, je le redis. Ceux qui vous disent qu'on va y arriver avec de l'argent public ne vous disent pas la vérité. Ce qu'il faut, c'est que l'épargne des Européens s'oriente vers la transition écologique, parce que c'est urgent. Il faut qu'on arrête de financer les énergies polluantes. Il faut qu'on arrête de financer les centrales à charbon. C'est ce que fait jusqu'aujourd'hui l'Union européenne. Il faut qu'elle arrête.
Alors, on avait cru comprendre que vous disiez, même s'il n'y a pas encore le programme, qu'il fallait remettre à plat Schengen.
Oui.
On a entendu le chef de l'État dans la conférence de presse qu'il a donnée l'autre jour parler de d'un détournement du regroupement familial, d'un détournement du droit d'asile, et parler lui-même de maison, en disant quand on veut défendre sa maison, terme employé également par François-Xavier Bellamy. Où en êtes-vous exactement par rapport à la droite, par rapport à l'extrême droite ou la droite extrême, je ne sais pas ce qu'il faut dire, par rapport au Rassemblement National, sur ce que vous annoncez aux Français concernant Schengen et la politique face à l'immigration?
Vous savez, moi, je me détermine pas par rapport à la droite, l'extrême droite.
Oui, mais enfin, dans une campagne, ça peut aider quand même pour choisir.
Je me détermine par rapport au projet que nous portons, c'est celui de protéger à la fois nos frontières et nos valeurs, avec la même intensité. Protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, c'est urgent, parce que on ne peut pas laisser certaines frontières être des passoires sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. Aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait une police européenne des frontières, qu'elle puisse monter à 10 000 hommes dès 2020.
C'est une proposition qui avait été... 10 000, ça c'est classique.
C'est pas classique, parce que le Parlement européen vient de dire on le fera en 2027.
La décision est déjà prise.
Non, parce qu'elle n'est pas prise, puisque 2027, c'est dans beaucoup trop longtemps. Et c'était une proposition que nous faisions depuis 2 ans. Être capable de repenser Schengen, c'est dire aux membres de la famille européenne, la liberté de circulation, c'est un atout formidable, à condition qu'on soit capable d'être responsable. Ceux qui veulent en bénéficier doivent protéger leurs frontières. Mais ce que je dis aussi, c'est protéger nos valeurs. Ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient la persécution, nous ne les accueillerons pas assez bien aujourd'hui en Europe. Il faut une politique européenne de l'asile, il faut une agence européenne qui détermine les critères et qui détermine les procédures d'asile pour qu'elles soient les mêmes partout dans l'Union européenne. Et il faut beaucoup mieux accueillir les réfugiés que nous le faisons aujourd'hui. De ce point de vue-là, les valeurs
mais
européennes...
beaucoup moins et beaucoup mieux ou... Autant et beaucoup mieux.
Écoutez,
ou plus et beaucoup
mieux. Il y a les réfugiés et il y a les migrants économiques. Les réfugiés, on leur doit un accueil de qualité. L'Europe s'est fondée là-dessus. Le droit d'asile, c'est une invention européenne quand nous avons accueilli les réfugiés du génocide arménien. Ne l'oublions jamais. Simplement, sur ce plan-là, on n'a pas fait assez. Sur ce plan-là, la Hongrie de Viktor Orban, on a encore appris hier qu'il y avait des demandeurs d'asile qui avaient été sciemment affamés à la demande des autorités hongroises. Moi, je ne serai jamais l'allié de quelqu'un qui affame des demandeurs d'asile. Je renvoie, pour répondre à votre question, la droite, à l'extrême droite, à cette violation de nos valeurs fondamentales.
Même si ça relève de la compétence des États membres, pour le coup, et pas du Parlement européen. Karine Bécard.
Alors moi, je voudrais parler de la politique agricole commune, de la PAC. On en parle peu, je trouve, dans cette campagne des européennes. Et pourtant, c'est important puisque la Commission européenne a déjà annoncé qu'elle souhaitait baisser le budget de cette PAC de 5%, ce qui représente quand même 365 milliards d'euros, je crois. Vous avez déjà dit, il est hors de question qu'on baisse effectivement ce budget.
Ça fait
budget.
2 ans que je le dis, ça fait 2 ans pendant que j'étais ministre, que j'ai combattu ce projet de la Commission européenne et que d'ailleurs, ce projet n'a pas progressé parce qu'il était inacceptable.
Je vais essayer de poser ma question. Du coup, comment on réussit à dire on veut pas baisser ce budget? Donc ça veut dire on soutient finalement notre agriculture d'aujourd'hui, cette agriculture conventionnelle, dit-on, cette agriculture productiviste, et comment on peut défendre en même temps la transition écologique dont vous parlez en permanence et que vous promettez?
Mais c'est juste
contradictoire.
Il
n'y a pas de cohérence.
C'est pas du tout contradictoire. C'est justement parce qu'il faut accompagner l'agriculture dans sa transition qu'on ne peut pas baisser le budget. C'est justement parce que on veut une agriculture plus verte, une agriculture plus respectueuse de l'environnement, une agriculture qui protège mieux à la fois les agriculteurs et les consommateurs, qu'elle a besoin de soutien. Et c'est précisément ce que nous représentons dans la liste que je porte. Le fait que les écologistes et les agriculteurs se parlent avec le même projet, pas les uns contre les autres, mais ensemble pour trouver des solutions. C'est pour ça qu'il faut des montants importants pour la politique agricole commune. On n'a jamais eu autant besoin d'autosuffisance alimentaire, d'une alimentation saine, d'une agriculture qui protège l'environnement. Tout ça, ça a un
Est-ce que ce ne serait pas un signal important, malgré tout, à donner aux agriculteurs pour leur dire, attention, les choses doivent changer. Donc effectivement, on a moins besoin d'argent, au contraire.
Écoutez, laissez tomber les agriculteurs en leur disant ça doit changer, mais vous allez faire ça tout seul. Vous savez quand même qu'il y a
parce qu'on enlève 5% qu'on est tout seul.
D'abord, c'est pas 5%, ça c'est un maquillage de la Commission européenne. La réalité, c'est 15%. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin de ces revenus. Pour chaque exploitation agricole en France, ça représente 30 000 euros par an. C'est majeur, c'est crucial. Et puis il y a des crises de marché. Il faut être aux côtés de nos agriculteurs. C'est une des réussites de l'Union européenne. L'Union européenne est la première puissance agricole au monde. Nous n'allons quand même pas perdre cet atout-là.
Françoise Fressoz.
Même si votre liste arrive en tête, vous serez minoritaire au Parlement européen. Donc ce qu'on comprend mal, c'est comment tout ce que vous dites peut se réaliser. En quoi ce qui est en panne aujourd'hui peut se réaliser au lendemain d'élections européennes dans lesquelles vous ne serez pas dominant?
Ce que nous voulons,
c'est être un groupe central, central. Mon ambition, c'est que ce groupe rassemble, avec les autres Européens qui nous rejoignent, une centaine de députés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune majorité ne peut se faire sans nous. Ça veut dire que la vieille cogestion entre la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle, nous voulons que ce soit fini. Alors, il y a deux possibilités. C'est que le troisième groupe, le groupe sans lequel on ne fait pas de majorité, c'est nous. Ou bien ce sont les populistes qui essayent de se réunir. Je laisse le choix aux électeurs. Je pense que si on croit à l'Europe, ce qui est mon cas, si on sait qu'il ne peut pas y avoir de France forte sans Europe forte, c'est ce groupe-là qui a besoin...
Le groupe des libéraux.
Non, pas des libéraux.
Un groupe comme ça qu'il s'appelle.
Pourquoi vous ne voulez pas ce terme? Parce que c'est un groupe libéral.
C'est un groupe progressiste, pro-européen, exigeant.
On joue sur les mots.
Alliance des libéraux et des démocrates européens, c'est le nom de ce groupe qui était la matrice de ce groupe à venir.
Et qui vient d'annoncer qu'il voulait se dissoudre, qu'il avait compris que ce serait un groupe nouveau, avec une énergie nouvelle, avec un souffle nouveau, avec des exigences en termes de projets qui sont les nôtres.
Donc Daniel Cohn-Bendit se trompe dans Le Parisien ce matin, il dit que vous présentez une liste libérale écologiste.
Bah écoutez, c'est le droit de Daniel Cohn-Bendit de le penser. Daniel Cohn-Bendit n'est pas sur la liste, mais c'est un ami, c'est un allié, il nous soutient.
Ce que je dis,
c'est que c'est une liste progressiste, démocrate, qui porte les valeurs de l'Europe et qui porte une ambition, c'est qu'à nouveau l'Europe soit à la pointe du progrès au service des Européens.
Donc pas libéral.
Pour rester sur le plan très concret, admettons que votre stratégie marche, vous êtes un groupe central, quel est le dossier que vous pouvez faire aboutir après les élections européennes?
Écoutez, ce n'est pas une question de dossier, c'est une question d'urgence. J'ai parlé d'urgence écologique, c'est la première urgence chronologique. Être capable de permettre qu'on relève ce défi climatique au niveau européen. Aujourd'hui, on voit bien que ça a été l'Europe des faux fuyants et des faux semblants. On n'a pas du tout fait assez sur le plan climatique. On s'enorgueillit de s'être fixé des objectifs pour 2020 et de les avoir atteints. Ça veut simplement dire qu'ils n'étaient pas assez ambitieux. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Fermer toutes les centrales à charbon, pas seulement en France, mais en Europe. Mais aussi accompagner ceux qui perdent leur travail à cette occasion pour leur permettre de se reconvertir.
Même en Allemagne, vous voudriez imposer aux Allemands de fermer leurs centrales à charbon, à quel horizon?
Vous pensez que le réchauffement climatique connaît les frontières?
Non. En l'occurrence, non. Mais les Allemands... Pourquoi suivraient-ils
2025,
cette proposition?
Parce que la planète se réchauffe pour eux aussi. Mais ce que nous proposons, c'est que ceux qui doivent changer de travail puissent être accompagnés par l'Union européenne. Il est hors de question de laisser quelqu'un sur le bord du chemin. Mais évidemment, sortir d'une économie carbonée, être neutre en carbone en 2050, aujourd'hui, il faut non seulement que ce soit une ambition française, mais une ambition européenne. Aller vers des transports propres, aller vers la voiture électrique. Première avancée franco-allemande, pour le coup, ce début d'alliance européenne des batteries. Et enfin, la Commission européenne a laissé la France et l'Allemagne, et j'espère d'autres vont les rejoindre, mettre en place un consortium avec des aides publiques.
Et enfin, vous remplacez ça par quelle énergie? Le nucléaire?
Ça dépend le renouvelable. Le nucléaire, on veut en diminuer la part dans notre mix énergétique, mais n'oublierons pas qu'aujourd'hui, le nucléaire, ça nous évite d'avoir des émissions de CO2 et l'urgence, elle est là. En matière de transport, l'électrique, l'hydrogène, on a besoin de recherche. Est-ce qu'on est capable de faire de la recherche seul, un pays européen? La réponse, c'est non. Il faut se mettre ensemble.
Vous avez dit quand on ne peut pas avancer à 26, à 27 ou à 28, il faut... avancer à moins nombreux. C'est quoi votre pack de gens qui avancent avec ceux qu'on laisse derrière? Et comment vous pouvez le faire?
Alors, ça n'est jamais, a priori, un groupe de gens qui disent « les autres ne viennent pas avec nous ». Regardez ce qui se passe sur la taxation des géants du numérique. Il y a 4 pays aujourd'hui en Europe qui en ont bloqué 24 autres. 24 étaient d'accord pour une taxation européenne des géants du numérique. 4 ont dit « nous n'en voulons pas ». Il y a 2 options. Soit enfin on sort de cette règle qui veut que ce soit l'unanimité pour décider en matière fiscale.
C'est un de vos objectifs.
Qui fait qu'on
n'a
rien décidé depuis des années.
Voilà.
Évidemment, on va le proposer, on va le porter. Soit on y arrive, et c'est absolument nécessaire. Si on n'y arrive pas, on décide qu'on fait quelque chose à 24, qu'on ne se laisse pas bloquer par ceux qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas de volonté, qu'on leur propose de nous rejoindre quand ils seront prêts.
Et on vous écoute en Europe, ou il y a vous qui avez cette idée-là?
Écoutez, quand on est 24 à penser la même chose, c'est quand même pas mal.
Alors justement, dans cette réorganisation qui pourrait se dessiner, Quel avenir pour le couple franco-allemand ? On sent bien que la France est quand même, et notamment par la parole du président, de plus en plus ouvertement critique, en tout cas se permet d'adresser quelques critiques à Angela Merkel, la chancelière. Quel nouveau partenariat il faut imaginer ? Est-ce qu'on reste un couple franco-allemand fort ou est-ce qu'il faut chercher d'autres partenaires ?
Alors, on a toujours besoin d'un couple franco-allemand, d'un moteur franco-allemand en Europe. Tous nos partenaires le disent. Il n'est pas suffisant, mais il est toujours nécessaire. Ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, c'est une forme de frilosité. C'est une situation politique compliquée, un gouvernement de coalition, des élections locales qui viennent, j'allais dire, en cascade, et une chancelière qui a déjà annoncé qu'elle quitterait la politique après son mandat. Bien sûr que ça ralentit les choses. Or, les urgences devant lesquelles nous sommes, les défis devant lesquels nous sommes, font qu'on ne peut plus attendre. Il faut aller plus vite. Beaucoup d'Allemands le disent aussi à la chancelière, il faut les entendre.
Qui soutiendrez-vous, Nathalie Loiseau, pour être présidente de la prochaine Commission européenne ?
J'attends de savoir qui seront les vrais candidats, ceux qui vont vraiment se déterminer, se présenter, quel programme ils ont. Un progressiste ou une progressiste, évidemment pro-européen, ambitieux et exigeant.
Il y a deux mois, vous aviez dit Michel Barnier. Il y a deux mois, vous étiez ici, vous aviez dit Michel Barnier.
J'avais dit que c'était un grand européen. J'avais pas dit. Je ne sais même pas s'il est candidat. Aujourd'hui, il est englué dans un Brexit qui manifestement n'est pas terminé.
Pourquoi refuser de débattre avec François-Xavier Bellamy, ce qu'on vous reproche à droite depuis quelques jours maintenant ?
Ce que François-Xavier Bellamy reproche, écoutez, il me l'a demandé. Il l'a aussi demandé à Jordan Bardella, qui n'a pas souhaité. Il n'y a jamais eu autant de débats que dans cette campagne européenne. J'ai tous les autres candidats qui m'ont aussi demandé un débat en tête-à-tête. On peut ne faire que ça. Moi, je fais beaucoup de terrain.
Oui, mais ça renforce l'idée du tête-à-tête et Rassemblement National, La République en Marche.
Bah, écoutez, c'est pas une idée.
N'acceptez pas d'ouvrir.
Nathalie Sarkic, c'est pas une idée, c'est une réalité. C'est une réalité que je déplore, mais c'est une réalité.
Qui peut vous aider.
Écoutez, franchement, je préférerais que ce soit une autre réalité pour notre pays, pour notre avenir. Et ce combat-là, j'espère bien le gagner.
Verdict le 26 mai prochain. Merci Nathalie Loiseau d'avoir été notre invitée à suivre jusqu'à 13h. Raphaël Glucksmann est l'invité de Questions Politiques. Question politique, deuxième partie, toujours avec Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Françoise Fressos du Monde et Karine Bécard de France Inter. Il est entré en campagne en assumant son envie d'Europe et en voulant rassembler la gauche. Il lui reste 3 semaines pour convaincre que tout ne se résumera pas le 26 mai prochain à choisir entre populistes et libéraux et qu'une autre Europe est possible, écologique, sociale, mais aussi culturelle. Il va nous expliquer pourquoi. La tête de liste Place Publique, Parti Socialiste, vient de s'installer avec nous. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Avant de découvrir votre portrait et de parler de votre projet, question rituelle. Imaginez que vous êtes face à un jeune Français, une jeune Française qui votera pour la première fois le 26 mai. Que lui diriez-vous pour présenter simplement votre idée de l'Europe ?
Déjà, je lui dirais que c'est son avenir qui est en jeu, car nous assumons en fait, nous n'avons pas l'Europe honteuse, nous assumons le besoin et l'envie d'Europe. Et moi, je lui dirais qu'il faut qu'il s'empare de son bulletin de vote pour porter ce que nous portons avec nos alliés espagnols comme Pedro Sanchez ou belges comme Paul Magnette, c'est-à-dire une Europe sociale, une Europe écologique, une Europe qui rompe avec la religion du libre-échange, qui impose une forme de protectionnisme à ses frontières, une Europe qui accueille les exilés au lieu de les laisser mourir en Méditerranée, une Europe donc fidèle à ses valeurs humanistes et surtout une Europe qui assume d'être un projet politique et pas simplement un marché. Et enfin, je lui dirais que en fait, il a besoin de l'Europe. Et pour qu'il se sente européen, nous, ce que nous lui proposons, c'est une généralisation à tous les jeunes entre 16 et 25 ans du programme Erasmus. Parce qu'en fait, on n'arrivera pas à construire l'Europe si on n'a pas un sentiment d'appartenance à l'Europe, si on ne connaît pas l'Europe. Et donc, il faut un projet pour la jeunesse.
Françoise Fressos.
Au fond, le grand débat à gauche, c'est de savoir si est-ce qu'on peut être encore européen quand on est de gauche, quand on voit l'évolution quand même extrêmement libérale de la construction européenne. Quels sont vos arguments pour dire que ça vaut encore le coup de se battre dans l'Europe actuelle ?
Mais mon argument déjà, c'est que il n'y a pas d'autre choix que de se battre dans l'Europe actuelle. Je veux dire, si on sort de l'Europe, si on sort de la construction européenne, comment on peut réguler la mondialisation ? La France seule ? Comment on peut faire face aux grands empires qui nous entourent, que ce soit la Chine, les États-Unis d'Amérique de Donald Trump ou la Russie de Vladimir Poutine ? Donc on n'a pas de choix. Mais simplement, ça dépend du rapport de force politique. C'est ça qui détermine la politique qui est menée à Bruxelles. C'est le rapport de force politique. Et c'est pour ça que nous, on s'inscrit dans une stratégie avec les sociaux-démocrates européens qui est celle d'une confrontation avec l'Europe libérale. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne ? En Espagne, il y a 2 ans, l'ensemble des analystes expliquaient mais de manière très docte et très sûre d'elle-même, eh bien que le socialisme était fini et que désormais c'était soit le populisme, soit la droite libérale. Et la leçon qui est administrée, c'est que quand on a une politique de gauche qui est menée, eh bien, ça peut être validé par les élections. Et ce qui est possible en Espagne est possible ailleurs.
Tout le monde s'est félicité du résultat des élections espagnoles. Et c'est vrai que Marine Le Pen a applaudi le résultat de Vox. Jean-Luc Mélenchon a lui aussi applaudi les résultats de l'extrême gauche.
Non, mais il arrive en tête, mais il n'est pas majoritaire quand même.
Cher Ali Badou, oui, enfin, quand même.
Il arrive en tête.
Je pense que tous les partis de gauche en Europe rêveraient de faire ce score.
Ça, je vous l'accorde.
Et par ailleurs, souvenez-vous vraiment qu'on expliquait que le Parti Socialiste Espagnol était mort, que désormais, c'était Podemos contre la droite.
Mais comment expliquez-vous justement cette renaissance du Parti Socialiste Espagnol au moment où le Parti Socialiste Français apparaît quand même mal en point? D'où ça vient ça ?
Raphaël Glucksmann.
Parce que fondamentalement, il y a eu une politique de gauche qui a été menée. Augmenter le SMIC de 22%, imposer le congé parental égalitaire entre hommes et femmes, tout ça c'est des marqueurs. Et proposer dans la campagne électorale la constitutionnalisation de l'indexation des retraites. Moi, le message qu'on reçoit, c'est que quand on fait une politique de gauche, eh bien on génère un enthousiasme dans la population et donc on est capable de gagner les élections dans la confrontation face au libéralisme. Et c'est pour ça qu'il faut rompre. Oui, moi je crois vraiment à l'avenir de la social-démocratie, mais une social-démocratie qui tire les leçons de ces échecs passés, de ces capitulations face au libéralisme.
Mais ça, c'est pas de la social-démocratie, là, c'est du socialisme, en fait, qu'ils font, purement et simplement. Quand on entend augmentation du SMIC de 22%, c'est pas de la social-démocratie.
Mais là, ce qu'on a appelé la social-démocratie pendant longtemps, c'était en fait du libéralisme accepté. La vérité de la social-démocratie à l'origine, c'est un projet de correction des inégalités du marché. C'est l'affirmation que la puissance publique peut façonner un territoire, peut façonner une société plus juste, que la politique, c'est pas simplement suivre les lois du marché, et que finalement, un peuple peut décider de réorienter la manière dont on construit ensemble une cité.
Nathalie Saint-Cric.
Alors vous avez dit que vous refusiez l'opposition pavlovienne, c'est une espèce de réflexe, d'ailleurs on a vu, toutes les têtes de liste ont demandé la démission de Christophe Castaner, je ne vous ai pas entendu la demander, est-ce que finalement vous n'êtes pas insuffisamment pavlovien et que c'est pour ça que vous ne décollez pas dans les sondages ?
Mais vous savez, moi déjà j'ai expliqué, c'est une élection sur l'Europe. On parle d'Europe tous les 5 ans. Et pourtant, 80% des règlements qui impactent notre quotidien sont décidés à l'échelle européenne. Et là, je vois bien que le président de la République essaye de faire la campagne la plus courte possible. Vais-je parler ? Vais-je parler ? Quand vais-je parler ? Et résultat, on a une campagne courte. Donc il faut qu'on parle d'Europe, vraiment d'Europe, parce que c'est notre avenir. Finalement, l'air qu'on respire, la qualité des aliments qui sont dans notre assiette dépend de l'Europe.
Encore faut-il pouvoir vous entendre et que vous puissiez vous exprimer et être élu. Donc, monter dans les sondages.
Bien sûr.
Enfin, dans les sondages, dans les votes.
On va monter dans les sondages en exposant notre projet, en faisant campagne. La campagne, elle commence tout juste. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une opposition.
Il n'y a pas eu d'effet, Raphaël Glucksmann.
Il y a une opposition extrêmement claire entre ce que nous proposons et ce que Emmanuel Macron fait depuis 2 ans. Et je sais très bien, il y a beaucoup de vos auditeurs, des gens qui nous écoutent, qui ont voté en 2017 pour un candidat qui promettait de renouer avec l'humanisme en France, qui promettait un pacte girondin et une décentralisation, qui promettait une politique équilibrée, qui promettait la réconciliation des Français. Ça fait 25 semaines qu'on connaît les tensions, la violence, la colère sociale. Il a tout fait sauf réconcilier les Français. Il a fait une politique qui est clairement une politique de droite, qui est une politique libérale qui vise à casser les services publics. Donc oui, il y a une opposition extrêmement forte. Par contre, moi, je ne vais jamais rentrer dans les questions politiciennes. Je ne suis pas comme ça. Et quand, par exemple, il fait l'indexation des retraites, il revient là-dessus. Mais moi, je dis que c'est bien. Simplement, c'est une mesure qui vient après 2 ans de politique destructrice. Et c'est en fait, les gens, s'ils sont contents de ce qui a été fait depuis 2 ans, ils peuvent tout à fait voter pour la liste La République en marche. Mais la vérité, c'est que depuis 2 ans, on monte vers une forme d'incandescence dans la colère et même parfois dans la haine dans notre pays. Et donc il est important pour l'équilibre même de la France qu'il y ait une gauche crédible qui propose une alternative sociale et écologique à la politique qui est menée. Et c'est cette gauche-là qu'on entend fonder, refonder et construire. Et les Européennes ne sont qu'une étape dans cette logique.
On va parler de votre projet européen, Raphaël Glucksmann, juste après votre portrait. Il est signé Karine Becker.
Raphaël Glucksmann, vos premiers pas politiques en tant que tête de liste sont apparus assez surprenants. Avoir osé dire à l'issue du premier débat que probablement vous n'étiez pas fait pour cela, vous vous êtes placé d'emblée aux antipodes de ce qui s'est toujours fait, vous cassez quelques codes, peut-être que c'est ce que veulent les Français, mais reconnaissez Raphaël Glucksmann qu'il n'est pas si facile de savoir vraiment ce qu'il souhaite en ce moment. En tout cas pour vous, politiquement parlant, tout est allé très vite. D'abord, un livre, Les enfants du vide, publié en octobre dernier. Les lecteurs les plus avisés y ont tout de suite vu une envie de vous lancer. Effectivement, dans la foulée, vous créez Place Publique pour rassembler la gauche, c'était ce que vous disiez. Et puis finalement, vous devenez tête de liste avec une partie des socialistes, mais sans avoir su fédérer. C'est un sacré pari pour vous, Raphaël Glucksmann, qui jusqu'ici étiez essayiste. En 2008, premier ouvrage, vous écrivez avec votre père, le philosophe André Glucksmann, sur mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy.
Pour la première fois, Glucks va à un meeting électoral, soutenir un candidat, qui plus est un candidat de droite, aux élections, et il se retrouve avec un discours sur mai 68. Et moi, j'étais hyper gêné pour lui, et pendant tout le discours, je regardais pas Sarkozy, je le regardais en me disant « il va être gêné, il va être gêné, il va être gêné », il était en train de rire.
Voilà pour l'origine du livre que vous précisez ce 1er mars 2008 sur le plateau d'On n'est pas couché. À l'époque, Raphaël Glucksmann, vous avez 28 ans, c'est votre période sarkozyste, libérale et atlantiste. Avant cela, il y a eu votre combat pour la vérité sur le génocide au Rwanda. Après, il y a eu l'Ukraine et surtout la Géorgie. Pendant 5 ans, vous avez été le conseiller du président Mikhail Saakashvili. Donc oui, vous aimez vous engager, vous aimez descendre dans l'arène et défendre vos idées. Aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, à 39 ans, vous vous présentez comme un essayiste qui s'essaie à la politique. Certes, sauf qu'avec 5% dans les sondages, et même parfois à peine, vous n'avez pas réussi à apparaître comme un nouveau phénomène. Alors, allez-vous priver le PS de tous ses eurodéputés? Ferez-vous chuter le parti plus bas qu'il n'a jamais été? Lourde responsabilité.
Réaction Raphaël Glucksmann?
Non, je suis un combattant et je pense qu'on va faire un score qui va vous surprendre. Il y a un enthousiasme qu'il faut retrouver. Vous savez, quand la gauche est basse, il faut plonger en soi et savoir vraiment pourquoi on se bat. Alors nous, on va mettre tous les sujets sur la table. Le sujet
donc
de la solidarité.
Donc pourquoi à Bordeaux, la salle, elle est pas remplie, par exemple? C'est votre dernier meeting.
C'est pas vrai. On a 700 personnes à Bordeaux, deux fois plus que les Verts au même moment. À Limoges, on est 700 aussi. Et il y a aucun parti qui fait ça. La République en Marche ne fait pas ça. Il y a que nous et les Insoumis qui sont capables de remplir des salles comme cela.
Donc il y a un effet Glucksmann, mais on est où la presse?
Il y a un enthousiasme à la base. Mais juste, j'aimerais faire un sort à cette présentation sur Sarkozy. C'est complètement faux. Ah. C'est-à-dire que la vérité, et d'ailleurs c'était dans l'extrait que vous avez sorti, on fait un livre pour expliquer justement et défendre mai 68 face aux attaques de la droite et notamment celle de Nicolas Sarkozy. Et c'est mon père qui fait ce choix et qui en sort tout de suite après, 6 mois plus tard, sur la question de la politique des Roms. Par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai évolué sur la question du libéralisme et j'ai écrit des livres pour en parler parce qu'entre-temps, il y a eu la crise de 2008 et que je pense d'ailleurs que cette conversion de la gauche au libéralisme explique largement la crise de la démocratie aujourd'hui en Europe et la montée des populismes.
Mais en 2007, vous votez Sarkozy ou Royal?
Mais non, je ne vote pas pour Nicolas Sarkozy, je ne suis pas un militant Sarkozy, il faut arrêter avec cette fake news qui
c'est dit
poursuit.
François Spresso.
Avant de rentrer dans le détail du projet, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites, on a été, la gauche s'est convertie au libéralisme, elle s'est perdue dans le libéralisme. Mais la gauche, elle a été très internationaliste. Et aujourd'hui, quand on lit votre projet, vous êtes plutôt sur un retour au protectionnisme. Comment est-ce que vous
européen,
mais comment est-ce que vous conciliez ça? Est-ce que c'est pas un revirement de doctrine? Et est-ce que vous ne faites pas monter justement l'escalade protectionniste en disant maintenant il faut se protéger?
Il faut constituer une souveraineté européenne. Il faut assumer que l'Europe devienne une puissance politique. Une puissance politique, ça doit être capable de décider des normes et des principes qui fédèrent sa société. Vous savez, moi j'étais à l'île de la Réunion. Eh bien, vous avez un poulet brésilien sur les marchés de l'île de la Réunion, un poulet brésilien élevé au Brésil, ensuite conditionné en Roumanie, il arrive sur les marchés de la Réunion et il est 2,5 fois moins cher que les poulets élevés sur l'île de la Réunion. Mais ça, c'est pas de l'internationalisme, c'est un système qui marche sur la tête. Et donc, il va falloir justement, pour éviter l'immense insurrection nationaliste qui est en train de ravager l'Europe, il va falloir arrêter avec cette religion du libre-échange. Je veux dire, on a constitué un marché ouvert aux quatre vents, alors que tous les autres acteurs de la mondialisation savent se protéger. Et donc ça, il va falloir rompre avec ça. Et pas à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Et c'est ce qui va permettre à l'Europe de s'affirmer dans la mondialisation. C'est pareil sur la concurrence libre et non faussée. Comment vous voulez faire pour qu'émergent des champions européens capables de mener la lutte contre les multinationales étrangères dans le cadre de la mondialisation si on impose comme ça cette règle dogmatique de la concurrence libre et non faussée? Non, il faut que les États européens, il faut que l'Union européenne elle-même puisse favoriser l'émergence de champions industriels européens. Et par ailleurs, nous, on est la seule liste qui assume, mais réellement assume, même si c'est impopulaire, eh bien que si on veut que l'Europe fasse plus de choses, il faut qu'elle ait plus de budget, il faut qu'elle ait des ressources propres, il faut qu'elle ait la capacité de, par exemple, lever un impôt sur les bénéfices des grandes sociétés. Et pourquoi ? Parce que dire juste, il faut que l'Europe soit plus écologique, il faut que l'Europe soit plus sociale, et dans le même temps ne jamais parler des ressources qu'on affecte à l'Union européenne, eh bien c'est de l'hypocrisie. Si on croit dans le destin politique de l'Europe, il faut lui donner les moyens de
ses
desseins.
Ça veut dire qu'on enlève les contributions des États à l'Europe et on fait un impôt européen. Non, on les maintient.
On maintient les contributions à l'Europe, effectivement. Et c'est notre grande différence avec beaucoup de listes qui n'assument pas cette solidarité européenne. Oui, les pays les plus riches en Europe doivent abonder le budget européen pour financer des projets dans les pays les plus pauvres. Et c'est le principe même de la solidarité européenne. Mais ça ne suffira pas. Donc il faut des ressources propres. Une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, donc un protectionnisme vert et solidaire, et un impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, pas les TPE-PME. Mais vous savez quoi ? Aujourd'hui, l'impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, ça veut dire les dividendes versés aux actionnaires, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et aux États-Unis, qui est quand même pas un pays ultra-bolchevique, vous me l'accorderez, cet impôt sur les bénéfices des grandes sociétés était, depuis Roosevelt jusqu'à Trump, de 38%. Trump fait un big bang néolibéral et le baisse à 24%. En Europe, le taux est 19%. En fait, l'Europe, aujourd'hui, est le continent le plus libéral qui permet aux actionnaires d'empocher le plus d'argent. Et si on veut mener des transformations sociales et écologiques, il va falloir que ceux qui ont le plus d'argent contribuent avant ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler.
Nathalie, vous l'avez dit tout à l'heure, parfois vous faites des propositions qui peuvent ne pas être très populaires. Dans le premier débat sur France 2, où vous avez dit que vous n'étiez pas très à l'aise, vous avez quand même eu un échange sur l'immigration, sur Schengen, en considérant en gros que les autres se comportaient de façon inhospitalière. Ça c'est la version basse, ou immonde, c'est la version haute. Est-ce que vous renvoyez dos à dos, on a entendu tout à l'heure Nathalie Loiseau, François-Xavier Bellamy et le Rassemblement National, en considérant qu'en termes d'immigration, ils font des propositions qui sont bonnet blanc et blanc bonnet.
Raphaël Guzman.
Non, je ne renvoie pas dos à dos. Je sais que le nationalisme porté par le Rassemblement National est infiniment plus violent que la droite libérale qu'on a aujourd'hui au pouvoir. Maintenant, quand on entend les macroniens dire qu'ils sont le rempart face au Front National, mais c'est un rempart de papier, c'est de la stratégie électorale. En réalité, ils reculent sur toutes les idées. Ils reculent sur l'accueil. Moi, je me souviens d'un président, un candidat, qui disait que Angela Merkel avait sauvé l'honneur de l'Europe et qu'il fallait renouer avec la France humaniste. Et c'est ce même candidat qui, devenu président, refuse d'accueillir l'Aquarius. Heureusement que Pedro Sanchez a ouvert ses ports. C'est le même candidat qui nomme M. Castaner, ministre de l'Intérieur, qui va ensuite répéter mot à mot les slogans de Salvini sur les ONG qui sauvent pourtant notre honneur en sauvant les gens qui se noient en Méditerranée. C'est Mme Loiseau qui parle de shopping de l'asile. Moi, je ne remonte pas à ses errements politiques quand elle avait 20 ans. Mais par contre, quand on parle de shopping de l'asile pour parler des gens qui sont en train de crever dans nos mers, eh bien, je trouve ça profondément scandaleux. Et mais c'est pas seulement sur la question des migrants qui n'assument pas d'être un rempart idéologique au Front National, sur la question des libertés publiques qui reculent, sur la question de la solidarité européenne. Moi, je suis marqué par la manière dont ils ont une Europe un peu honteuse. Quand Madame Loiseau dit, eh bien, nous n'avons quand même pas payé pour construire des routes en Bulgarie ou en Hongrie. Mais si, je suis désolé, et c'est impopulaire de le dire. Mais c'est ça le principe même de l'Europe. Si on ne fait pas ça, eh bien, on remet en cause les solidarités qui fondent le projet européen.
Et donc, pas de détournement du droit d'asile, comme l'a dit le chef de l'État, pas de détournement du regroupement familial, vous considérez qu'il n'y a aucun problème ?
Non, moi je considère d'abord que quand on est dans un débat, et c'était ça la réaction, quand on est dans un débat où la question porte sur les gens qui se noient en Méditerranée et qu'on a trois réponses de suite, de la droite, de l'extrême droite et donc de la droite libérale d'En Marche, et que personne n'est capable de dire la première chose à faire, c'est qu'on relance Mare Nostrum et qu'on les sauve, eh bien oui, c'est un scandale. Ça veut dire qu'on a perdu la bataille culturelle, on a perdu la bataille sémantique, et c'est ça qu'il va falloir réassumer. Alors bien sûr, En Marche est bien plus haut que nous dans les sondages, mais la vérité, c'est que si on n'assume pas cette bataille culturelle, cette bataille idéologique, alors on n'est pas un rempart contre le Front National.
Vous pourriez partager ce combat-là, enfin en tout cas vous le partagez avec Anne Brossat, la liste communiste. Sur l'écologie, vous rêvez d'une sociale écologie, mais je trouve que sur l'écologie, c'est un peu compliqué, parce que finalement, on retrouve des propositions de Yannick Jadot, le candidat vert, on retrouve des propositions de la République En Marche. Quelles sont vraiment vos propositions qui vous distinguent en fait de vos concurrents ?
Raphaël Guzman.
Déjà, la première chose, il y a des différences par exemple avec les Verts, c'est que nous...
Ah, vous en rêvez de cette grande banque pour la transition écologique ?
Justement, c'est pas juste une banque. C'est pas juste une banque. J'ai bien vu que La République En Marche a repris la proposition de M. Larrouturou, qui est sur notre liste, de créer une banque climat. Mais c'était pas que ça. C'est pas juste une banque. C'est un pacte finance climat et biodiversité, ce qui veut dire qu'on a la création d'une banque climat qui peut faire des prêts, mmh. et on a la création d'un budget climat
exactement.
Qui peut lancer des investissements. Mais ce budget climat, il suppose ces taxes dont on parle sur les bénéfices des grandes sociétés. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pacte finance climat et biodiversité ? C'est montrer qu'en fait, la transformation écologique de nos sociétés, c'est une grande aventure de justice sociale et qu'on ne peut pas distinguer les deux. Le grand plan de rénovation thermique des bâtiments et des logements qu'on entend lancer à l'échelle européenne, eh bien, ça permettra de faire des économies aux foyers français jusqu'à 1 000 euros et de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le même mouvement. Alors, ce qu'on entend partout, c'est de dire non à l'écologie punitive. Mais alors, pour proposer une alternative, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut montrer qu'en fait, en prenant l'argent là où il est, on peut faire de la transformation écologique, justement, une réhabilitation du sens de justice sociale, que ça va réhabiliter l'idée qu'on peut investir dans sa société, que les dépenses publiques ne sont pas un problème, mais qu'elles peuvent être une solution. Bref, ça nous permettra quoi ? Eh bien, de réhabiliter l'idée même de gauche politique. Et c'est ça le sens de notre mariage entre social et écologie.
Combien d'États, en fait, qui sont en capacité de défendre ces idées-là ? Et vous avez quel allié au Parlement européen pour imposer ça ?
D'autant que les mesures fiscales doivent être adoptées à l'unanimité des États membres, pour le coup, et que la création de nouvelles taxes, ça relève des États membres.
Bah justement, c'est faux. Ça s'appelle les coopérations renforcées. Et en matière fiscale, c'est tout à fait possible. Et donc,
en matière de fiscalité directe ?
Attendez,
le traité sur l'Union européenne ne comporte aucune compétence en matière de fiscalité directe.
La taxe sur les transactions financières, c'est tout à fait possible de le faire en coopération renforcée. On a besoin de 11 États. Donc la question, ce n'est pas celle de l'unanimité. Par contre, la question, c'est celle des coalitions politiques et des alliés, vous avez raison. Et c'est pour ça que moi, j'appelle les électeurs de gauche à nous rejoindre, parce que nous avons des alliés. Nous avons Pedro Sanchez, nous avons les sociaux-démocrates
parlementaires. Notamment au Parlement européen.
Bien sûr. Et au Parlement européen, nous allons siéger dans le groupe social-démocrate. Et le grand enjeu de ces élections, c'est de savoir qui des sociaux-démocrates ou du PPE, donc de la droite libérale, sera en tête. C'est ça le grand enjeu. Vous savez, à l'échelle européenne, le face-à-face entre nationalistes et progressistes, entre Macron et Le Pen, il fait pchit. Ils vont dans des petits groupes. L'enjeu, c'est de savoir si la gauche sera en tête ou la droite sera en tête.
Mais les sociaux-démocrates, ils sont où aujourd'hui ?
Au Parlement, vous avez des alliances. C'est-à-dire que souvent, on a vu le PPE s'allier avec les sociaux-démocrates. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez ou quel type d'alliance voulez-vous créer pour faire avancer le sujet ?
Il faut réintroduire des clivages dans les institutions européennes. Et donc, l'alliance qu'il faut porter, c'est d'abord une alliance à gauche. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de trouver un candidat qui puisse réunir les sociaux-démocrates et les écologistes et d'autres partis de la gauche. Moi, je l'ai, ce candidat. Il s'appelle Paul Magnette en Belgique. Vous savez, Paul Magnette, c'est l'homme qui s'est opposé, au début, il était seul, au traité de libre-échange avec le Canada, le CETA. Et il est devenu l'homme le plus populaire de Belgique. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi ce mariage entre le socialisme et l'écologie. C'est ça l'avenir de la gauche.
Ce que vous avez tenté en France,
bien sûr. Et vous savez quoi ? Je tenterai jour après jour pendant toute ma vie de le faire, parce que c'est la seule avenir. On a besoin, en France et en Europe, mais en France, d'une alternative sociale et écologique au libéralisme et au nationalisme. On peut pas se contenter de ce match. Enfin, je veux dire, on essaye de nous prendre en otage, de nous imposer un face-à-face qui nous condamnera éternellement à voter pour Emmanuel Macron et les libéraux pour faire barrage au Front National. Mais à la fin, on sera des castors fatigués et on arrêtera de voter et on aura l'extrême droite au pouvoir. Et donc, il faut qu'il y ait une alternative qui émerge. Et cette alternative, elle se fondera sur ces deux piliers, la social-démocratie et l'écologie.
Je rappelle quand même qu'au Parlement européen, les Verts, très souvent, vont chercher le soutien de libéraux pour faire passer un certain nombre
Bien sûr, mais nous, ce qu'on leur dit, c'est que justement, il faut créer une gauche. Et donc, on peut avoir même un candidat unique.
Mais est-ce que ça veut dire, c'est compliqué, parce que est-ce que ça veut dire que à la prochaine législature, la prochaine mandature du Parlement européen, vous refusez toute alliance avec, par exemple, les libéraux, si jamais il faut faire opposition à l'extrême droite ?
Mais on refusera c'est écrit dans les textes qu'on a signés pour faire les accords, on refusera en tout cas la cogestion gauche-droite des institutions européennes et du Parlement européen. Parce que c'est ça précisément qui a fait perdre son âme à la social-démocratie européenne. On le voit bien à chaque fois qu'il y a une coalition avec la droite libérale, comme en Allemagne par exemple. Qui paye les pots cassés ? Ben c'est la gauche, parce qu'on voit plus la différence ensuite. Or, pour qu'on vote à gauche, il faut qu'on voit une différence. Vous savez, quand vous êtes juste pour la préservation de l'ordre établi, vous n'avez pas besoin de susciter l'enthousiasme, vous n'avez pas besoin de romantisme dans votre rapport à la politique. Mais nous, on a besoin de ça. Si on veut réhabiliter la puissance politique, si on veut réhabiliter l'idée que l'Europe peut, eh bien, être une protection contre la mondialisation la plus sauvage, si on veut réhabiliter l'idée qu'on peut transformer nos sociétés par la politique, il faut qu'on suscite cet enthousiasme. Et cet enthousiasme, il ne peut qu'être dans une forme de rupture avec, justement, les plus libéraux des conservateurs.
Nathalie Sacré. Alors, à propos de romantisme, est-ce que vous avez renoué avec François Hollande ? Est-ce que son attitude serait un peu plus bienveillante ? Est-ce que c'est vrai que Christiane Taubira va vous suivre ? En gros, est-ce qu'il est socialiste ou ex ? ou encore socialiste, vont se décider de se bouger un peu pour vous venir en aide.
Eh bien, Christiane Taubira, c'est très bien que vous associez romantisme et Christiane Taubira, parce que c'est quand même une grande figure romantique, Christiane Taubira, et qui porte des principes humanistes extrêmement puissants. Eh bien, Christiane Taubira, on fera un meeting ensemble à Rouen. Et,
le 15 mai.
Le 15 mai, exactement. Et je suis, moi, fier et heureux de partir au combat avec quelqu'un comme Christiane Taubira, parce que justement, c'est le rapport à la politique que moi, je veux voir renaître. C'est une idée qui est, au fond, très française et qui a été le cœur de la gauche française pendant longtemps. C'est l'idée que, eh bien, la politique, c'est pas juste de la gestion, c'est pas juste de la communication.
Et François Hollande, qui, en achetant du muguet, manifestement, a trouvé que Yann Brossat faisait une campagne formidable. Il a acheté du muguet à des vendeurs du Parti communiste, faut préciser.
Vous connaissez François Hollande. C'est l'humour de François Hollande.
Alors, mais quand il aura fini de rire, est-ce qu'il va prendre position?
Est-ce que vous étiez fier d'être obligé d'aller serrer la main à François Hollande?
Mais moi, j'appelle tout. Les socialistes à nous rejoindre, et au-delà de ça, tous ceux qui pensent qu'il faut une gauche dans notre pays, qu'on peut pas se contenter de ce face-à-face-là. Et je pense que ce que nous on est en train de faire, c'est poser la
première
pierre.
Parce que François Hollande se demandait si la gauche existait encore.
Socialiste.
Ben, je vais vous répondre. La gauche, elle existe encore. Et alors, elle a aujourd'hui un problème de traduction politique. Mais la gauche, elle existe dans tous les gens qui vont faire des maraudes pour aider les sans-abri. Elle existe dans les gens qui ont ouvert leurs portes aux migrants, dans les gens qui luttent pour faire émerger des coopératives qui respectent la nature dans notre monde rural. Eh bien, la gauche, elle existe partout. Nous, ce qu'on veut faire, c'est enfin créer un débouché politique à cet humanisme et à cette solidarité, à cet esprit de solidarité sociale qui existe partout dans notre pays. Il y a des centaines de milliers, des millions de Français qui se sentent aujourd'hui orphelins de la gauche. Et moi, ce que je leur dis, je m'adresse à eux, je leur dis, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est la première pierre, c'est le début d'une grande aventure. On ne peut pas se contenter d'une scène politique aussi moribonde et aussi nauséabonde qu'un simple face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est maintenant que ça joue, les européennes, c'est une première étape.
Françoise.
Votre projet, c'est pour une Europe écologique et sociale. Mmh. Le volet écologie, on l'a bien perçu. Mmh. Quel est le volet social?
Je vais vous prendre une mesure. Une mesure qu'on entend porter et qui illustre bien la différence d'ailleurs entre la gauche et la droite. C'est l'idée d'un congé parental paritaire à l'échelle européenne. C'est-à-dire que, eh bien, pour chaque foyer, il y a 8 mois de congé parental répartis, 4 mois pour les hommes, 4 mois pour les femmes. Et que ce soit une obligation européenne. C'est la Commission européenne qui portait ce projet. Pour une fois, elle avait un projet d'avancée sociale et ça a été bloqué. Ce projet a été bloqué par le soi-disant progressiste Emmanuel Macron. Et donc, ça, c'est une mesure qu'on veut porter immédiatement. Parce qu'en plus, il y a la possibilité de construire une majorité autour de cette mesure au Parlement, là, puisque c'est la France qui l'a bloqué. Et par ailleurs, ce qu'il faut, c'est rompre avec cette logique de la moins-disance sociale. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un fonds pour l'harmonisation par le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ailleurs en Europe, il y a des pratiques sociales qui sont beaucoup plus positives et solidaires qu'en France. Je vais prendre juste un exemple. Le programme Logement d'abord en Finlande. Le gouvernement finlandais a décidé de loger gratuitement l'ensemble des sans-abri. Et on s'est rendu compte de quoi au bout de 2 ans? Eh bien que la collectivité économisait 15 000 euros par an et par sans-abri par rapport à la France. Parce qu'en France, les frais d'hébergement d'urgence, les frais de justice, les frais d'hôpitaux liés à la vie dans la rue coûtent énormément à la collectivité. Et donc, quoi? On se rend compte que la solidarité paye. Et ça, c'est pas des dépenses sociales courantes. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un fonds qui permette justement de lancer ces investissements dans la solidarité sociale qui se révéleront rentables ensuite, parce que la solidarité est rentable. Et donc, il faut sortir de cette Europe de la moins-disance sociale. Par ailleurs, tout ça ne fonctionnera que si, justement, on rompt avec la logique du libre-échange absolu. On ne peut pas accepter que notre marché soit ouvert aux quatre vents.
Karine Bécart, dernière question.
Hyper courte. Raphaël Glucksmann, vous aimez les combats, vous en avez mené plusieurs. Siéger au Parlement européen, ça dure 5 ans. Vous allez siéger aussi longtemps?
Oui, je vais siéger. Et vous savez, moi, l'Europe, c'est le combat de ma vie. Et j'irai traquer à la fois avec mes colistières et mes colistiers, à la fois les lobbies qui dénaturent l'idée même d'Europe, mais surtout les nationalistes. Et face aux nationalistes qui vont polluer ce Parlement, il faudra des gens qui soient fermes, fermes sur les principes, fermes sur l'humanisme, fermes sur la question migratoire, fermes sur la question des libertés publiques. En fait, on entre dans une période extrêmement dure de notre existence politique. Et à ce moment-là, il faut que chacun plonge en soi et vote avec son cœur, vote avec ses tripes, vote pour ce en quoi il croit et non plus en étant otage de calculs ou d'analyses fausses.
Résultat, verdict le 26 mai prochain. L'émission se termine. Merci Raphaël Glucksmann d'avoir été notre invité. Bonne campagne. Merci à tous les trois, ainsi qu'à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.